Bonjour à tous. Je ne suis pas, ne vous trompez pas, je ne suis pas, je suis dans la joie, je suis dans la paix. Je suis juste bouleversée une fois de plus par la beauté, la grandeur de notre Dieu à mon égard encore ce matin. C'est pour ça que je tremble un peu, je n'ai pas peur, moi, je suis venue avec des munitions en plus. Hein. Je suis juste bouleversée parce qu'à chaque fois c'est une réponse à des interrogations que j'ai. Il vient avec une précision extrême, avec sa parole, me donner la parole qu'il faut pour m'encourager à travers Antoine, à travers Romain, à travers vos prières, à travers la présence aussi de Pierre, qui est une surprise pour moi, puisqu'il revient de Corse. Donc, voilà, je vais commencer. Je tremble encore. Hein. J'ai fait ces derniers temps des recherches j'ai été conduite à avoir une réflexion sur un mot qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais il y a des mots qui nous sont chers aussi, comme discipula, trinité, qu'on ne trouve pas dans la Bible. Et j'ai voulu donc connaître la réalité de la providence de Dieu dans nos vies. Donc, le mot, c'est la phrase, c'est la providence de Dieu. Qu'est-ce que la providence de Dieu? Qu'est-ce qu'elle fait pour moi? Qu'est-ce qu'elle fait dans ma vie? Et dans la vôtre? Et dans celle de nos amis, dans notre famille, dans ceux que nous rencontrons? Dans le monde? La définition du mot providence, a priori, c'est issu du latin provideo. Pro qui veut dire en avant, de la part de. Et vidéo qui veut dire voir. Providence signifie en réalité pourvoir à ce qui est nécessaire, apporter aide et soutien. Mais quand il se rapporte à Dieu, il a comme sens acte de pouvoir de manière intentionnelle. Ça veut dire qu'il le fait exprès pour le monde ou soutenir et diriger le monde. On parle aussi plus souvent de la souveraineté de Dieu, mais au-delà d'avoir un Dieu qui règne sur tout, nous pouvons aller à la découverte d'un Dieu qui agit sur tout, absolument tout. Il agit sur nos choix, bons ou mauvais. Il utilise nos faiblesses. Il crée des circonstances qui ne sont pas toujours celles que l'on aimerait. Il endurcit les cœurs. Il infuse des pensées. Tout cela d'une manière intentionnelle, selon ses saints desseins. Pour nous chrétiens, quel est l'avantage de croire en la providence de Dieu? C'est qu'il nous convainc, grâce aux circonstances qu'il utilise pour son plan parfait et qu'il nous révèle à l'aide de sa parole, il nous convainc donc que la chance et le destin ne sont rien. La chance et le destin, tel qu'on l'entend dans le monde, ça n'est rien pour nous chrétiens. On peut lire dans Matthieu 10, ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Là, il est question de la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire sans qu'il le voie ou sans qu'il soit au courant. De toute façon, bien sûr qu'il est au courant. Mais c'est il veut ou il ne veut pas. Donc, on s'accapare ce verset pour notre vie. Et j'ai trouvé une phrase que j'aime beaucoup. Donc, on s'aperçoit que l'omniprésence de Dieu sur les oiseaux du ciel, donc les passereaux, qui tombent sur le lit de la forêt, c'est le fondement de notre audace. Ce qui veut dire, soyons donc sans crainte, car nous avons un Dieu qui est derrière toute chose et qui n'a absolument aucun concurrent. Pour comprendre où il nous emmène parfois, on doit savoir que Dieu, eh bien, il a une manière qui est quand même bien spéciale de gérer le monde. Hein. Il a été dit donc au tabernacle lors d'un culte, une phrase qu'Alain a reprise, c'est Dieu ne s'occupe pas de nos problèmes, mais il s'occupe de sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et encore ce matin, j'ai pu avoir la preuve que quand on utilise sa parole ou quand il y a un verset comme ça qui nous vient en tête, donc ce matin pour moi, ça a été quand le péché abonde, la grâce surabonde. Je l'ai reçu et Antoine l'a redit. Et il a eu un impact immédiat sur moi, sur mon âme, sur mon cœur, sur mon esprit. La puissance de la parole. Dieu ne s'occupe pas de nos problèmes aussi, c'est Gabi qui l'a dit. Il ne s'occupe pas de nos problèmes, mais il s'occupe de notre cœur. Alors il s'obstine à briser la dureté de nos cœurs, à lui parler au désert. Il nous promet un cœur de chair, il nous promet un cœur nouveau. Tous les moyens sont bons pour que nous gardions notre cœur. Donc Gabi aussi a parlé du souffle. Donc nous allons recevoir au tabernacle un souffle nouveau pour alimenter ce cœur et qu'il se mette à battre pour Dieu seul de cet amour extravagant qui lui est dû. Adam au jardin d'Éden a frappé Dieu avec son cœur. C'est comme s'il avait dit « J'ai plus confiance en toi pour le meilleur ». Je te repousse, je te rejette comme père, je ferai les choses à ma manière. Donc nous devons impérativement reconnaître et laisser le Saint-Esprit, ce souffle, gérer nos vies pour que nous ayons les mains et le cœur purs. Alors donc, Dieu ne s'occupe pas de nos problèmes, il s'occupe de sa parole. Dieu ne s'occupe pas de nos problèmes, il s'occupe de nos cœurs. Et moi, je voudrais rajouter, c'est la cerise sur le gâteau. Dieu ne s'occupe pas de nos problèmes, mais il s'occupe de son nom. Il fait tout pour la gloire de son nom. Et c'est là que la providence intervient, car il va non seulement profiter des circonstances, mais il va aussi les créer exprès, en utilisant les hommes, la nature, etc., pour manifester la gloire de son grand nom. Et afin que nous, ses enfants, on le glorifie. Voilà, c'est tout à fait naturel. N'importe qui, hein, on n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Vous avez un problème, vous avez un souci. Admettons, un bateau, d'accord ? Dans un bateau, vous avez un capitaine, vous avez des matelots. Il y a une tempête qui se lève. Une tempête qui se lève, donc le capitaine, il tient la barre comme il peut, les matelots, ben, ils font aussi ce qu'ils ont à faire, ils se tiennent aussi au bastingage pour pas se retrouver à l'eau, enfin bref, et puis d'un coup, la tempête s'arrête, puis alors là, ils sont là entre eux, ben, le capitaine, il dit, ouais, à un moment, la vague, elle a failli arriver, moi, j'ai tourné à bâbord, et puis du coup, ah ouais, on a vachement un bon capitaine, hein. Oh ben merci, alors vraiment, on a eu une chance de se sortir de là, mais nous, chrétiens, bon, on va pas parler comme ça. C'est-à-dire que nous, on sait que c'est... Qui c'est le capitaine du bateau ? Mais on sait que c'est Dieu. Donc, on va le louer. On va dire merci Seigneur parce que c'est toi qui as arrêté la tempête. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as gardé la main du capitaine. Merci Seigneur parce que tu nous as infusé le courage de nous accrocher. Et c'est ça qui va faire toute la différence pour Dieu parce que lui, justement, il va tout faire parce que c'est ce qu'il veut. Il va tout faire pour qu'on glorifie son nom. Et je me souviens qu'Antoine nous a relu le cantique de victoire de Moïse après la traversée de la mer Rouge. Et ce jour-là, vraiment, j'ai reçu ce cantique d'une manière différente, avec ses danses, ses chants de louange, ses remerciements à Dieu. Et il faut savoir donc, que la mer Rouge restera toujours un élément fondateur et emblématique de toutes nos délivrances. Je vais donc partir de mon témoignage pour étayer mon message. Alors, si vous vous demandez ce que j'ai fait ces derniers mois, vous voulez savoir ce que j'ai fait ces derniers mois ? Oui ? Non ? Oui ? Ben, je vais vous le dire quand même. Hein. Eh ben, moi, j'ai fait des briques. J'ai fait des briques ces derniers mois en Égypte. Donc l'Égypte, c'est l'amour du monde. Hurakaldée symbolise la religion du monde, la tour de Babel, la confusion du monde. On sait que dès que nous sommes rachetés, nous devons délaisser le monde. Sauf qu'il est difficile de quitter le monde. Moi, ça m'a été difficile. On le voit très bien dans le livre de l'Exode, parce que Pharaon, il ne se laisse pas faire. À chaque fois, il trouve des trucs pour... Et même quand on est un enfant de Dieu, quand on est racheté, on peut laisser quelque chose en Égypte. Une ancienne mentalité. Sauf que tôt ou tard, on servira Satan. Et lui, il n'est absolument pas dérangé par le fait qu'on soit un enfant de Dieu, pourvu qu'on travaille pour lui. Hein. Donc, en fait, je suis pour un temps redevenue esclave de Pharaon à travailler pour lui. C'est une lutte, c'est épuisant et c'est perdu d'avance. Alors pour moi, en fabriquant ces briques, c'était un esclavage. C'était combattre par mes propres forces. Je me battais contre la chair et le sang. Donc Dieu a fait en sorte, par sa providence, que ça s'arrête. Éphésiens 6:12, donc, car nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans ces lieux célestes. Donc là, j'ai bien compris. Je pense que j'ai bien compris. Donc voilà le passage des briques, c'est fini. Hein. Donc après les briques, on va naturellement parler de l'exode, puisque de toute façon, il faut partir. Et découvrir que malgré nos fautes, notre entêtement, et encore, et encore, et encore, que Dieu va agir, donc, comme je vous le disais, pour la gloire de son nom. Philippe, tu peux mettre Ézéchiel, donc, 20. Je prends mes versets. C'est plus simple pour moi de les prendre là. Hop. Donc, Ézéchiel 8 à 10. Et ils se révoltèrent contre moi et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards. Ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquels ils se trouvaient, et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ensuite, dans le désert, Ézéchiel 13 à 14. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répondre sur eux ma fureur dans le désert pour les exterminer. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Excusez-moi. Et il insiste dans Ézéchiel 20, donc 21-22. Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point mes ordonnances, enfin ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Ils profanèrent mes sabbats, j'ai la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main. J'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations, en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Ça fait 2 ans que je cherchais un lien. Enfin, pour moi, j'avais ces mots entre grâce et gloire. Et finalement, c'était ce lien que je cherchais entre la grâce et la gloire. On voit dans Ézéchiel qu'il nous fait saisir ce lien entre la grâce de Dieu. C'est-à-dire, la grâce de Dieu, Dieu ne manifeste pas sa colère et sa détermination à manifester la gloire de son nom. Et le but de l'Exode, c'est le don de sa grâce pour sa gloire. Il nous fait toujours grâce, toujours, pour glorifier son grand nom. Nos erreurs, les événements, nos faiblesses, il les balaye si ça va à l'encontre de sa gloire. C'est justement cette audace qu'il nous donne, parce qu'il va forcément agir. Et ça pose un fondement pour notre foi. Dans cette marche, l'Éternel, dans cette marche, donc, quand le peuple part de l'Égypte, l'Éternel est devant le peuple, dans la colonne de nuée et de feu. Colonne de nuée qui symbolise aussi un mur de protection, et la colonne de feu qui lui, dans les ténèbres, qui nous éclaire, qui représente le Saint-Esprit qui nous conduit. Donc on voit dans Exode 13 qu'il leur fait faire un détour. On connaît tous ce chemin pour ne pas affronter les Philistins, parce qu'ils ne peuvent pas à ce moment-là affronter les Philistins. Donc Dieu le sait. Donc il leur fait faire un détour, ce qui a dû les surprendre, donc par le chemin du désert vers la mer Rouge. Et dans Exode 14, il leur fait carrément faire demi-tour. Et là, c'est pour une victoire écrasante sur Pharaon. Alors, du coup, on voit bien que l'Éternel, il crée des problèmes, finalement, dans un but précis. Et moi, je trouve qu'on peut parfaitement se reconnaître dans cette marche étrange, et des fois à l'opposé du but, où nous dirige bien malgré nous notre Dieu. Alors, on imagine le peuple qui part du pays de la servitude, en confiance, peut-être après les démonstrations des plaies, est déjà confronté à des circonstances qu'il ne comprend pas. Imaginons-nous à leur place. Ils entendent le bruit des chevaux derrière eux. Bon, il y a la colonne, n'oubliez pas, devant, Dieu est devant. Ils entendent les chevaux, ils entendent les cris des guerriers, ils voient peut-être de la poussière. À mon avis, ça devait pleurer dans les rangs. Il y en a certains qui avaient peut-être déjà envie de faire demi-tour, qui devaient gémir. Ils avaient peur, comme nous, on peut avoir peur. Si on ne garde pas les yeux fixés sur Jésus, si on oublie que Dieu, il est déjà devant. Donc, du coup, on entend l'échec qui se rapproche, mais Dieu, il est déjà devant. Vous entendez la défaite qui se rapproche, mais Dieu, il est déjà devant. La mort qui se rapproche, mais Dieu, c'est pareil, il est déjà devant. La vie, elle est déjà devant. Et c'est à la mer Rouge, justement, donc, que je suis celui qui suis, puisque on le connaissait sous ce nom-là. Eh bien, il devient je sauve qui je sauve. Et merci Seigneur, parce que nous faisons partie des gens que tu as sauvés. Alors, on a souvent l'impression, à certains moments, que nos circonstances, elles vont aussi à l'opposé de nos prières. J'ai dû apprendre à ne pas me laisser troubler aussi par ça, parce que justement, quand vous lisez dans Luc 11, ce fameux verset, donc, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou un serpent s'il lui demande un poisson? Et justement, quand ils sont partis dans le désert, les Hébreux, ils ont dû souvent avoir l'impression de recevoir une volée de pierres à la place du secours de l'Éternel. Et là, j'ai trouvé un poème merveilleux. Donc, ça sera un petit peu poétique ce soir, parce qu'il y aura, deux poèmes. Et qui s'appelle La pierre et le serpent. Un jour, me dit mon Père divin, fais-moi connaître tes besoins et répands ton cœur devant moi. Cherche tes désirs dans mes voies. Tu verras que je t'aimerai toujours de mon amour parfait, infini, sans réserve et fort, en te comblant de grands trésors. Ne te lasse pas de frapper, continue, car j'ai beau veiller. J'ai une raison de tarder et j'aime t'entendre prier. C'est pas fini. Une encre, voilà ton besoin. Mais trompé par l'appétit, tu me demandes du pain. Mais ne te fais pas de soucis, je te donnerai une pierre pour ne pas dériver en mer. Et si pour contrer un poisson, tu as besoin d'une vipère, mais que tu demandes pour contrer un poison, tu as besoin d'une vipère, mais que tu demandes un poisson pour diminuer ton calvaire, moi j'aurai du discernement et je te donnerai le serpent. Ô mon précieux petit enfant, quand bien même je satisfais tes demandes selon mon plan, ne renonce point à prier, car le poisson et le serpent répondent aussi à tes besoins, et toutes tes prières j'entends, elles ébranlent les cieux divins. Alors viens vite et prends ces clés pour découvrir le vrai bonheur. Demandez, cherchez et frappez, c'est là le chemin vers mon cœur. C'est beau, non? Ah, c'est beau, hein? Maintenant, je vais passer à la vie d'un homme que vous connaissez tous, qui s'appelle Job. Alors, le livre de Job, c'est le témoignage de la perte de tout. Et en plus du reste, c'est-à-dire qu'on sait qu'il a perdu ses enfants, ses richesses, sa santé, mais aussi de la perte de sa réputation, de sa confiance, de sa joie et de son courage. Dans Job 23, 15, il dit, Job a brisé mon courage et m'a. Job dit, Dieu a brisé mon courage et m'a rempli d'effroi. Les terreurs m'assiègent. Ces discours sont tout ce qui est plus terrible et douloureux. Hein. Quand on passe par où est passé Job, même si on n'a qu'un seul souci, hein, surtout ceux que lui il a vécu. Donc quand on passe par là, se dresse devant nous la souffrance, les inquiétudes. Mais surtout, il y a l'incompréhension en tant qu'enfant de Dieu hein, devant ce qui nous arrive. Et il y a aussi un sentiment dont on parle peu. Justement, ce sentiment, c'est la honte, l'opprobre. On parle aussi de l'opprobre du monde. La définition de l'opprobre, c'est ce qui humilie à l'extrême publiquement. Blâme, déshonneur, outrage. Est-ce que vous connaissez ce sentiment? Moi, j'ai très bien connu ce sentiment. J'étais même la championne de la honte. Donc le livre de Job exprime nos sentiments sur tous les tons. Tout le monde peut se reconnaître à un moment donné. Hein, dans le deuil, la douleur, la solitude, les faux consolateurs aussi. On entend donc les cris de rage de Job, la révolte, à la limite du blasphème hein, ou même la tentation du suicide. Hein. Il dit « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère? La pendaison me séduit, je hurle et tu ne réponds pas ». Les amis de Job, alors pour moi aussi, ça peut être les petites voix qu'on a dans la tête, vous savez, quand vous entendez ces voix qui vous disent « Tu souffres parce que tu as fait une erreur, tu ne vas pas t'en sortir, tu es condamné, tu es vraiment nul ». Donc d'où l'importance d'amener toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Mais on croit souvent que Satan nous l'utilise, mais en fait c'est Dieu qui utilise Satan. Quand on relit le livre de Job, finalement, Satan, on n'en entend parler qu'au début. Après, on se rend compte que c'est Dieu qui orchestre tout. Et donc, on peut tirer trois leçons du livre de Job. Donc, la première, c'est qu'on se rend compte que dans nos épreuves, on est quelquefois comme Job. On est quelquefois pour Dieu, mais on peut être aussi quelquefois contre Dieu. Mais on n'est jamais sans Dieu. Ça, c'est une leçon de vérité. Alors, on comprend aussi qu'on est extrêmement mal placé pour juger les compétences de Dieu quand on relit ce magnifique passage où il nous plonge dans les merveilles, les mystères du monde naturel. Moi personnellement, ben, voilà, j'aime la poésie. Ce passage me coupe le souffle aussi à chaque fois parce que c'est aussi là qu'on voit la grandeur de sa providence. Et ça, c'est une vraie leçon d'humilité. La troisième leçon, c'est une leçon de confiance parce qu'il a tout orchestré. Et après cela, nous ne permettons jamais à personne de dire que Satan est souverain sur nos maladies, sur nos choix, sur nos circonstances et nos détresses. Il faut bannir le mot malchance de nos vies et vraiment comprendre que nous marchons dans la main de Dieu. C'est ça notre plus grande victoire. On connaît la fin de l'histoire de Job, les bénédictions incroyables de Dieu. Sa réhabilitation auprès de sa famille et de ses amis. Dieu enlève l'opprobre. Mais on ne sait pas réellement comment il vit cette nouvelle condition. Enfin, on sait qu'il retrouve deux fois ce qu'il a perdu. Il a d'autres enfants. des filles dont le nom est important. Il leur donne une part de l'héritage, puisque ça, avant ça ne se faisait pas, a priori. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il pense. Et moi, je pense qu'il vit sa vie, c'est encore les nombreuses années que Dieu lui donne, il les vit dans une forme de dépouillement. Il a été dépouillé de tout, et je pense que sa relation seule à Dieu l'intéresse vraiment. Et quand on passe par un tel creuset d'épreuves, il y a une belle phrase aussi qui dit « On donne ce que l'on ne peut garder pour obtenir ce que l'on ne peut pas perdre. » Il a compris la leçon. Et pour moi, il lui reste une cicatrice. Et moi, je voulais faire un parallèle avec ma vie. Ça peut vous étonner, mais aujourd'hui, après un passage douloureux, il me reste une épine. On se questionne souvent sur l'épine de Paul, mais vous pouvez aussi vous questionner sur la mienne. Mais c'est mon secret, c'est ma faille à sa gloire. J'ai encore un très beau poème à vous lire. Voilà. Je me suis tenue telle une mendiante devant le trône royal de Dieu et je l'ai supplié de m'accorder un cadeau extrêmement précieux. Quelque chose que je pourrais faire mien. J'ai pris le cadeau de ses mains, mais au moment de m'en aller, j'ai crié « Seigneur, c'est une épine !» et elle m'a transpercé le cœur. « Quel étrange et douloureux cadeau tu m'as donné !» Mon enfant m'a-t-il répondu. « Je ne donne que des bonnes choses, et de moi tu as le meilleur. » J'ai ramené mon cadeau chez moi. La douleur de la cruelle épine impossible à faire taire. Mais les années ont passé, et j'ai fini par l'aimer chaque jour davantage. J'ai appris que Dieu ne donne jamais une épine sans grâce supplémentaire. Il utilise l'épine pour épingler de côté le voile qui cache son visage. Donc, Job a vu Dieu. Moi, je ne sais pas si je l'ai vu avec une aussi grande clarté. Mais je sais que Dieu a enlevé l'opprobre de ma vie. Mais il a laissé l'épine. Mais elle est même plus douloureuse. Elle est juste là comme un rappel. Comme pour pas que je l'oublie, lui. Philippe, Ésaïe 46, 9 à 10. Souvenez-vous ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ce verset résume une des plus grandes leçons qu'on ne peut jamais apprendre. En tout cas pour ma part, parce que je me suis souvent, très souvent sentie soit coupable de mes choix, soit victime collatérale, on peut dire, des choix des autres. Or, Dieu est la cause. Il ordonne, il décrète, il produit, il est l'auteur, il guide, il dirige. Il fait aboutir, il contrôle, il corrige, il régule, il définit, et encore. Une telle providence nous remplit d'espérance, car elle s'adresse au pécheur le plus désemparé et à la victime la plus meurtrie. Et donc Dieu endurcit qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, sans que cela altère sa sainteté et sans que cela enlève la responsabilité à l'homme, bien sûr. Alors dans l'exemple de Joseph et ses frères, il y a toujours donc on parle souvent de se mettre à la place de Joseph, c'est-à-dire en tant que victime finalement des choix de ses frères, mais on peut aussi se mettre à la place des frères de Joseph qui ont fait le choix de le vendre. Et à la fin de cette histoire, ils disent donc nous avons une intention coupable, mais celle de Dieu est sainte. Alors je conseille à personne de mettre qui que ce soit dans une citerne. Hein, c'est pas le but, c'est pas ça. D'ailleurs, je pense que vous n'avez pas de citerne, donc ça se pose pas. Mais la question ne se pose pas. Mais souvent, dans nos faiblesses, on agit mal. Il faut s'en repentir, bien sûr. Mais les voies de Dieu sont insondables. Et finalement, d'imaginer le bien fondé de tous nos choix ou de croire qu'on fera jamais de mal, ça, c'est orgueilleux. Hein. Mais Dieu change le mal en bien. Il faut comprendre qu'on est dans sa main. Et moi, j'aime même mieux souffrir de sa main que de souffrir de la main de qui que ce soit d'autre. Après l'effondrement d'une partie de ma vie, tout ce que cela a pu impacter tant physiquement qu'émotionnellement, j'ai vu que sa providence était bien plus porteuse d'espérance que la pensée de Satan. Dieu a profité de tous ces événements-là. Il a même créé une partie des événements de ma vie pour ouvrir une brèche dans le cœur d'un homme qui m'est cher. Et moi, j'aime beaucoup cette fragilité nouvelle qu'il a, cet homme, cette faiblesse. Je crois que c'est un des plus beaux cadeaux, un des plus grands trésors qu'il soit pour moi. Pour son Église, c'est-à-dire nous, Dieu a un projet essentiel dans le but ultime de sa providence, parce qu'elle vise à l'embellissement de cette Église, justement. C'est la sanctification. Pour nous rendre saints, c'est extraordinaire ce qu'il peut faire pour que les êtres déchus que nous sommes, nous puissions rentrer dans cette fameuse obéissance du cœur. C'est lui qui fait ça. Et il est utile par moment de se sentir par moment dépouillé de tout, afin de voir que si nous ne maîtrisons rien, lui maîtrise tout. Une des définitions de la sainteté, d'ailleurs, c'est l'abandon total et confiant à l'amour implacable de Dieu dans la fidélité au moment présent, heure par heure. Dans cette confiance et cet abandon, c'est là que nous comprenons que sa providence est enracinée dans une sagesse infinie et une justice parfaite. Dieu parle dans Ésaïe 45 et il dit, alors tu peux le mettre si tu veux, Philippe, mais de toute façon, je ne le lirai pas en entier. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu ne connaisses, et afin qu'on l'en sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Au départ, je voulais m'arrêter là, mais quelque chose me troublait de terminer sur ce passage de l'Ancien Testament. On sait que ce livre est là pour connaître le Dieu créateur, libérateur, pour partenaire de l'alliance avec l'homme et connaître sa relation avec le peuple juif qui nous tient à cœur. Mais c'était simplement le mot ancien que j'avais en tête. Ancienne mentalité, ancienne vie, anciennes idées, ancienne peur, ancienne souffrance, ancienne querelle, anciennes amours, anciennes idoles, anciennes lois. Je suis la première à oublier trop souvent que sa grâce a annulé la condamnation de la loi. C'est un peu comme si j'utilisais mon propre sang encore et encore dans cette lutte acharnée pour me justifier. Cependant, mon alliance est scellée par le sang de Christ. C'est avec lui que j'ai signé le contrat. Ça annule tous les autres contrats. Son contrat prévaut sur tout. Pour mon Église, pour moi, je vois comme un livre qui se referme et un autre livre qui s'ouvre. Le premier livre, il est poussiéreux, et l'autre livre, il est vierge, parce que Dieu va l'écrire avec nous. Et c'est là où je vais en venir, où je vais finir. En fait, de providence, Nous avons un pourvoyeur de grâce et un porteur de gloire. Son nom est Jésus.